Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? C'est la grande question que je vais vous poser en première heure d'émission. On va discuter de la pression qu'on se met un peu trop souvent sur les épaules parce qu'on veut performer au travail. 80 heures par semaine, c'est ce que faisait mon invitée Marie-Josée Michaud, qui vient de publier un livre qui s'intitule « Quand l'hyperperformance devient toxique ». En fait, 80 heures par semaine, c'est le titre de votre livre. Marie-Josée, merci beaucoup d'être là.
Merci.
Comment ça va?
Ça va nerveuse présentement, je vous l'avoue.
C'est vrai?
Oui, absolument.
Ben, je vous mets à l'aise tout de suite, on jase. C'est comme ma cuisine ici, c'est comme mon salon. D'ailleurs, mon invité également, Guillaume Desnoyers, peut témoigner. Il vient souvent, Guillaume.
Bonjour, hein? Isabelle.
Puis c'est pas gênant, hein?
Pas du tout.
Guillaume Desnoyers est recruteur professionnel, associé principal chez Desnoyers Ressources humaines, spécialiste donc en ressources humaines. Je trouve ça vraiment intéressant. Je commence par vous, Marie-Josée, et Guillaume pour enchérir. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, puis votre livre témoigne de ça. Vous avez voulu écrire et témoigner du fait qu'on n'est pas obligé de se tuer au travail. Puis quand je dis se tuer, ben vous avez eu même, vous avez vécu une grande dépression, là, ce qu'on appelle, pour bien paraître, un burn-out.
Effectivement.
Vous dites carrément les vraies choses. Vous dites c'est une dépression sévère. C'est beaucoup parce que je travaillais trop. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait un petit bout de moi-même. Hein. Je vous paraphrase. Vous dites ça. Vous avez même pensé à vous enlever la vie. Donc, c'est vraiment une espèce de descente aux enfers du travail qui te bouffe un peu plus chaque jour et qui finit par avoir ta peau. Vous en êtes sorti, heureusement. Puis vous vouliez témoigner de ça. Pourquoi c'est important pour vous de le dire aux autres?
C'est important pour moi que les gens comprennent que c'est une pression qui n'est pas nécessaire qu'on se mette sur les épaules. Puis en même temps, on parle beaucoup du travail, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a l'environnement personnel aussi qui peut jouer beaucoup parce que dans le 80 heures, il n'y a pas seulement le travail. Surtout dans mon cas, j'étais une mère monoparentale pendant longtemps. Même avec des conjoints, c'est jamais le papa de tes enfants. Donc, c'était le 15 heures de plus quand on arrive le soir, puis on se dit « Oh my God, il y a encore les repas, les enfants qui soient bien, etc. » Fait que ça ne cesse jamais. La pression d'être la meilleure dans tout est là constamment. Puis j'ai voulu écrire ce livre-là parce que, bon, ben, suite à ma dépression majeure, j'ai même passé 4 jours en psychiatrie à un moment donné. Je croyais que ma vie allait se terminer là, que ma carrière était terminée. Et puis, moi, mon rêve, c'est de devenir vice-présidente d'une entreprise envergure dans le modèle d'opération ou de production. Et puis, j'ai cru que c'était terminé. Et voyez-vous, c'est l'ironie de tout ça, c'est que oui, j'ai choisi le chemin du rétablissement et on m'a offert des postes de vice-présidente par après que j'ai refusé pour commencer ma carrière, la deuxième que j'occupe actuellement comme spécialiste en santé psychologique au travail.
Ouais. Et vous avez eu des postes de gestionnaire de haut cadre, des postes importants, justement. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup donné là, pour votre job, pour votre milieu de travail, pour vos employés, pour les patrons.
Oui, exactement. J'ai fait tout ça pour les patrons, pour être reconnus au travail. J'ai choisi aussi des domaines dans lesquels c'était les hommes étaient très présents, donc très peu de femmes.
Ouais. À la STM, entre autres?
Oui, à la STM.
Racontez ce que vous faisiez à la STM.
J'étais la deuxième femme nommée surintendante d'un centre de transport à la STM. Alors, ça a été, c'était quelque chose, c'est pas pour me vanter que j'en parle, mais c'est parce que c'est quelque chose par rapport à laquelle je me mettais énormément de pression. Mes collègues de travail arrivaient très tôt au travail. Moi, fallait que je dépose mes enfants à la garderie. Fait que déjà là, ça paraissait un peu mal, voyez-vous. Des fois, fallait que je m'absente parce qu'ils étaient malades. Alors, fallait que je compense en travaillant encore plus d'heures puis en étant encore plus présente. Ça, c'était ce que je croyais. C'était ma croyance.
Mmh. Pourquoi vous avez rajouté, en décrivant ce que vous faisiez? C'est pas pour me vanter.
Parce que trop souvent, j'ai remarqué ça, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, hein, au Québec. Peut-être que certains auditeurs n'aimeront pas ce que je vais dire, mais on est comme gêné de parler de qu'est-ce qu'on fait de bien. Puis il y a quand même une timidité aussi par rapport à ça. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui... On ne saura jamais ce qu'ils font vraiment, mais ils font de grandes choses, de belles choses, puis on n'en entend pas parler. Mmh. Fait qu'il y a comme une gêne à le dire quand il y a quelque chose d'un petit peu exceptionnel qui se passe
mais
pour nous.
Mais c'est très femme de
oui,
dire ça.
Oui, aussi, vous avez raison.
Moi, je l'ai rarement entendu dans la bouche d'un homme. C'est pas pour me vanter. Les gars, ils se vantent, là. Puis il y a personne qui trouve qu'ils se vantent trop, là.
Vous avez raison.
Le Guillaume est éclaté de rire. Mais c'est vrai. T'es un gars, tu peux être arrogant. T'es une fille, tu te prends pour une autre. On va quand même juste le dire, là.
On, on a le succès timide au Québec. Faut se l'avouer. Puis dans plein de secteurs, là, je veux dire, à un moment donné, il y a une étude qui était faite dans le domaine de la couture. Puis ils ont fait des études aux États-Unis.
Couture, oui.
De la couture, tu sais, une machine à coudre. Là.
Ouais, ouais.
Puis ils sont allés voir aux États-Unis. La meilleure couturière de la place, elle avait un statut de vedette.
Mm-hmm.
Le plus beau spot, tu sais, le spotlight, les paillettes, tout ça, au Québec, elle voulait certainement pas que ça se sache.
C'est fou pareil, là. Mais, ouais. Encore là, milieu très féminin.
Oui, mais on parle de performance. Là, ça aurait pu être un autre milieu, puis je pense que ça aurait pu être assez similaire, malheureusement.
Mais est-ce que c'est pire pour les femmes que pour les hommes?
Ben, je pense que c'est différent. Je veux dire, la pression sociale puis la charge mentale n'est pas la même. Puis oui, dans certains cas, je travaillais à un moment donné avec une psychologue industrielle qui disait « Si tu offres une promotion, casse-cou un gars de 25 ans, il va l'accepter 100% du temps. » Les filles, ils vont y réfléchir un peu plus.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si c'est peut-être de la sagesse, finalement, là. Alors que dans d'autres cas, je veux dire, des gars qui ont vivent des aventures comme Marie-Josée a vécu, il y en a, là, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller tellement loin. Je pense qu'il y a un gars qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Yogi de Wall Street », là, qui a lui aussi vécu une descente aux enfers. Je ne veux pas banaliser l'histoire de Marie-Josée, qui est très touchante, d'ailleurs. J'invite vos auditeurs à se le procurer.
Ouais.
Là. Moi, j'ai lu les 12 premières pages, puis c'est très, très, très...
Mais ça nous ramène à tout ce qu'on fait pour le travail. Tout ce à quoi on se plie, tout ce qu'on se met sur le dos, travail et, comme Marie-Josée le disait, plus largement, même tous ces multiples postes qu'on finit par occuper, là, que ce soit mère, père, conjoint, conjointe, ami, aidant naturel. Je le rajoute de plus en plus maintenant parce que c'est une dimension dont on parle quand même relativement peu, alors qu'il y a plus d'un million de Québécois qui sont aidants naturels, et puis qui sont à peu près pas gratifiés pour ça. Là.
Absolument.
Donc, ça finit par être difficile. T'sais, on parle beaucoup d'anxiété des enfants, des jeunes, mais il y a toujours bien des parents qui sont obligés de dealer avec ça. Là,
Mais l'environnement est de plus en plus anxiogène.
C'est pas simple.
L'environnement est de plus en plus anxiogène. Quand on pense aux technologies de l'information, on a tous un cellulaire. Je ne sais pas si vous lisez les statistiques qu'on vous envoie de votre temps d'écran par semaine, mais il y en a que ça pourrait être plus grand que le temps de sommeil dans certains cas.
Ouais.
Donc, puis on a juste à regarder. On parlait tout à l'heure, c'est la rentrée, ben, je veux dire, les temps de transit augmentent chaque année dans la région de Montréal et dans un paquet de régions métropolitaines. Ça réduit du temps et ça met de la pression sur tout le monde.
Ouais. Mais justement, Guillaume Desnoyers, bon, ça fait 20 ans que tu es à ton compte.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est plus facile? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont travailleurs autonomes, aussi pour ça qu'ils disent, ben moi, finalement, j'ai quitté. Puis Marie-Josée, vous êtes travailleur autonome aussi maintenant.
Oui.
Vous avez refait, comme vous le disiez, une deuxième carrière où vous preniez plus le temps d'avoir du temps pour vous. Hein?
Je suis pas certaine que j'ai plus de temps pour moi.
Mais on retombe dans ces vieux réflexes.
Ben voilà, c'est sûr que l'hyperperformance, ça ne part pas de nous. C'est intrinsèque. Puis c'est ça. Mais je veux pas vous interrompre parce que vous avez commencé avec Guillaume.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça des fois, c'est un réflexe,
ben
ça reste. Hein,
ça vient de
Guillaume,
nous, hein.
Est-ce que ça vient de nous vraiment? D'où ça vient l'hyperperformance?
Ben, moi, je pense que ça vient de l'anxiété de performance puis de l'ego. Là. On veut être performant. Il y a des gens pour qui ça en devient maladif de vouloir être le premier, de vouloir réussir, de vouloir avoir le spotlight sur soi, d'avoir la belle maison, d'avoir la belle voiture.
Mais est-ce que c'est de la vanité? Ou est-ce que c'est désir de réussir? C'est un manque de confiance en soi? Tu sais, ça peut être beaucoup de choses.
Écoute, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, puis je ne vais pas me faire poursuivre par personne. Là. Mais je pense qu'il y a un bon mélange de tout ça. Là,
ouais.
Je veux dire, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Tu sais, Marie-Josée a dit « Je travaille aussi fort qu'avant », mais elle travaille dans des choses dans lesquelles elle a fort probablement plus de plaisir.
Oui, bien, c'est là-dessus que...
C'est elle qui met la pression, pas l'organisation.
Oui, exactement. C'est... La différence d'avant et de maintenant, c'est que j'arrive à mieux cerner le pourquoi je dis oui à faire beaucoup d'heures et à être capable de mettre une limite à un moment donné parce que ça a été bien cerné.
Mm.
Alors souvent, on entend des gens dire, j'ai écouté certaines de vos émissions, puis il y a des gens qui disent, les gestionnaires, ils font pas ci, ils passent pas à l'action. Les employés, on sait pas trop ce qu'ils veulent, ils comprennent pas, etc. On entend tout ça, mais qu'est-ce qui fait finalement que les gens ne passent pas à l'action? Et c'est ça que j'ai voulu écrire dans le livre. J'ai voulu décrire parce que lorsque j'ai commencé à faire toute ma recherche par rapport au stress dans le monde des gestionnaires,
ouais,
découvrir qu'est-ce qui m'était arrivé, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plein de choses en arrière de la scène par rapport à nous comme êtres humains qui se passent dans l'inconscience, qui fait en sorte qu'on prend des décisions qui n'ont rien à voir souvent avec la réalité. Parce qu'on a des croyances, on a un paradigme individuel, on a tout ça à faire le ménage dedans, puis les différents rôles qu'on s'est construits, bâtis pour être productif dans notre société d'aujourd'hui, bien, il faut être capable de les revisiter à un moment donné, de dire, est-ce que je suis dans le devoir être présentement ou je suis dans le désir être? Ouais. Il y a un autre de vos invités qui a dit cette semaine, bien, c'est quand mon père est décédé que j'ai commencé ma carrière dans laquelle j'ai du plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, ça peut... Peut-être que c'est pas ce qui est arrivé, mais peut-être qu'il y a un déclencheur pour cette personne-là, à un moment donné, qui a dit, OK, j'avais une croyance par rapport à ma famille ou à ce que je devais être pour être bien représenté. Ouais. Puis là, ben le décès de mon père a fait en sorte que j'ai senti que je devenais plus libre, peut-être, de faire quelque chose.
Oui.
Je parle à travers mon chapeau parce que j'ai jamais discuté avec cette personne-là, mais c'est ces questions-là qu'il faut se poser.
On porte les aspirations d'autres personnes.
Exactement.
Et on s'éloigne de ce qu'on est nous-mêmes.
Exactement.
On se met plus de pression, bien souvent, soi-même, qu'est-ce qui est attendu de nous. Il y a la pression qu'on a, puis celle qu'on se met. Mais il y a un exercice que, quand les gens ont cette discussion-là, ça devient souvent assez apaisant. C'est demander à son patron... Qu'est-ce que tu attends de moi?
Mm-hmm.
Parce que sans ça, là, le petit écureuil, il part à spinner, puis on finit par. L'anxiété, c'est un peu ça, hein, c'est une spirale. Ouais. On finit par dire, ah, ben si telle chose arrive, ben je peux pas faire ça, ou je dois faire ci, ou je peux faire ça. Puis finalement, quand on pose vraiment la question, on se rend compte que c'est souvent nous-mêmes, par désir de bien paraître, tu pourrais dire c'est de l'ego ou de la vanité peut-être, par désir de bien paraître par rapport aux collègues, par désir de réussir pour bien se sentir et être confiant, on va faire plein de choses qui sont souvent pas nécessaires, pas attendues, mais on se met aussi souvent dans une situation où si on le fait et on en fait toujours plus, bien, l'organisation, le patron finit par s'attendre à ce qu'on le fasse aussi. Fait que il y a un peu de soi là-dedans. Là. Je dis pas que les organisations sont blanches comme neige. Là. Je veux dire, il y a 500 000, à chaque jour, il y a 500 000 Canadiens qui s'absentent pour cause de santé mentale. Là. C'est un problème.
500 000. Un demi-million de personnes.
Oui, effectivement. Fait que c'est fou, là, sur l'ensemble du Canada. Là.
Et le groupe d'âge le plus touché, c'est malheureusement maintenant les 28 ans et moins. On est passé de 32 à 28 ans dans les deux dernières années. Alors, ça fait peur un petit peu, c'est notre relève là, qui est affectée actuellement. Alors, c'est important qu'on en prenne conscience puis qu'on fasse ce qu'il faut pour aider ces jeunes-là, nos futurs dirigeants, à ne pas faire les mêmes erreurs que nous puis à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur propre paradigme. Mais eux, avec leur éducation, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? On parlait de l'ordinateur ou du téléphone. Tantôt, Guillaume mentionnait ça. Mm. Cette génération-là, elle est... complètement imbibés par la technologie et donc ils sont constamment, excusez l'expression, mais pluggés.
Ouais.
Et je vois ma fille qui a 21 ans qui parfois me dit « Maman, je me délie de mon Facebook parce que je me vois être en train d'être convulsive.
Ouais, » ouais.
Et voyez-vous, c'est ça que j'ai appris, moi, à être capable de m'observer, de me voir aller. J'ai essayé de transmettre ça à mes enfants. Alors, c'est des techniques comme ça, des prises de conscience comme ça qu'il faut s'assurer d'instaurer parce que notre future génération, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui va arriver pour eux?
Oui, c'est un débat très d'actualité. On parle d'interdire le cellulaire dans les écoles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... Tu as dit que c'est une bonne idée?
Ben oui, certainement.
Et tiens, en même temps, est-ce que c'est faisable? Il y a des écoles, on a des modèles d'écoles où ça se fait, là, puis personne meurt, là, finalement. On est capable de survivre, heureusement. C'est encourageant de voir qu'on meurt pas quand on met son cellulaire
d'un
côté.
Isabelle? Non, sérieusement.
Écoute, sincèrement, j'essaie de le dire à mes enfants, mais c'est pas toujours évident, surtout avec la plus jeune, mais bon. On va s'arrêter ici. C'est une discussion fort intéressante parce que je trouve qu'on est tous un peu pris là-dedans, c'est-à-dire cette espèce de pression à différents niveaux. Ça peut être différents niveaux, puis c'est pas obligé que dans le travail. Des fois, c'est de la pression que vous vous mettez juste personnelle. T'sais, tout à l'heure, on va avoir François Guy Thivierge. C'est un alpiniste fort connu à l'international et ici. C'est un Québécois qui a battu des records d'escalade. C'est un pionnier en matière d'escalade. Il s'est lancé un défi qui n'a juste pas de bon sens. 55 montagnes pour ses 55 ans, 55 mois. Il va nous en parler tout à l'heure. Tiens, on pourrait lui poser la question. Pourquoi il fait ça? Oui. D'ailleurs, je vais lui demander. Mais c'est aussi un type de défi. Visiblement, lui, il en sort du positif. Ouais. Alors, il y a la performance qui te donne, qui est un moteur, qui te fait avancer, puis il y a celle qui te gèle, puis qui te ramasse, qui fait que tu te ramasses en jaquette verte dans le sous-sol d'un hôpital psychiatrique. C'est
Alors, comment faire en sorte qu'on aille dans un chemin et non pas l'autre? C'est ça qui est difficile. Il ne faut pas se perdre là-dedans. On va aller à la pause, si vous me permettez. On va revenir avec mes invités. Guillaume Desnoyers, spécialiste en ressources humaines. Marie-Josée Michaud, qui est auteure, qui vient de fêter ses 50 ans d'ailleurs.
Oui, félicitations. Merci.
Et qui vient de publier 80 heures par semaine quand l'hyperperformance devient toxique. Je vais faire appel à vous, chers amis, auditeurs. Dites-moi si vous vous mettez de la pression plus qu'il n'en faut. Est-ce que vous vous sentez parfois obligé de surperformer au travail? Avez-vous l'impression qu'on vous en demande toujours de plus en plus? Est-ce que c'est vous qui vous la mettez, cette pression, ou est-ce que vous sentez qu'on vous la met? 514-790-9850 pour répondre à ces questions-là. Puis, sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Intéressant, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent à isabelle@985fm.ca. Vous pouvez le faire également. Bien sûr, vous pouvez nous téléphoner dans la grande région de Montréal en faisant le 514-790-9850. Et sans frais, vous nous joignez en faisant le 1-866-790-9850. J'ai Philippe qui m'écrit. Il y a 168 heures par semaine, la règle du vrai professionnel, alors écoutez ça tout le monde, avait trois compartiments à respecter, 56 heures pour le travail, 56 heures pour dormir, 56 heures pour les loisirs, la famille, etc. Voilà ce que fait un vrai professionnel. Êtes-vous d'accord avec ça, Guillaume Desnoyers, Marie-Josée Michaud?
J'ai jamais fait le calcul, Isabelle. Je pense qu'on est tous, différents, puis on a tous des vies différentes. Puis tu sais, on n'a pas tous la, tu sais, avoir une famille de trois enfants, puis être célibataire, hein, c'est pas la même chose. Mais j'ai jamais fait le calcul.
À savoir combien d'heures tu travaillais?
Non, mais ce calcul-là de 56, c'est sûr que tu sais, t'es entrepreneur depuis 20 ans, des semaines de 50 heures, de 60 heures, j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai fait de 35, puis de 38, puis de 42, là. Mais
tu sais, sincèrement, là, quand t'es à ton compte, par exemple.
Ouais.
Parce que finalement, 56 heures par semaine, c'est 11,2 heures par jour. Je viens de le faire.
La garderie
11 heures par jour, là. tu commences, mettons que tu fais 8 heures du matin, tu finis à 7 heures du soir, ça fait 11 heures.
Là. Mais il y a bien du périsentéisme là-dedans.
C'est une journée. Là.
Oui, c'est une journée, puis après ça, tu arrives, puis tu as les repas à faire, puis tu as les devoirs
t'as
à
le
faire.
Tu as le souper, qu'est-ce qu'on mange, maman? Puis,
c'est ça, exactement. Puis c'est l'horreur maintenant pour beaucoup de parents, les devoirs.
Ouais. C'est incroyable.
Oui, c'est ça, c'est une autre histoire d'horreur pour eux. Fait qu'ils arrivent après. Puis le soir, souvent, quand les enfants sont
couchés. Tu n'es pas un bon parent. Oui, mais justement, avant le coucher, Marie. Si t'es pas un bon parent si tu lis pas une histoire à ton enfant.
C'est ça.
Ton enfant va avoir des problèmes plus tard dans la vie si tu as pas lu une petite histoire avant le dodo.
Exact. Si t'as pas été. Oui.
Est-ce que vos parents vous lisaient des histoires?
Non, mes parents ne me lisaient pas d'histoire. Moi, mes enfants, à 7 ans, faisaient leur propre lunch. Et mon fils, à 11
très,
ans,
très bonne.
Lavait le linge de tout le monde. Fait que j'ai été obligée de mettre des mécanismes en
place.
T'as
réussi quelque chose que j'ai pas réussi. Tu vois, c'est ça.
On peut faire une autre émission là-dessus.
Oui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que font vos enfants?
Oui.
Ouais.
Mais donc, le soir, quand on arrive le soir, ben là, les gens, ils font quoi? Ils regardent leur email. Ah, vers 9h30, 10h le soir, avant de se coucher. Combien de gestionnaires que je coach actuellement sont là-dedans? Sont dans le « bon, ben mes enfants sont couchés, ma femme, j'ai donné un bec, là, j'espère qu'elle sera pas trop fâchée, mais j'en ai jusqu'à 11h à peu près. Ah, » Puis le lendemain, à 6h, sont sur le piton. Fait que
ou les gens qui travaillent avec leur ordinateur dans le lit. Là.
Oui, exactement. C'est en
il y en a-tu qui font ça? 514-790-9850. On a Suzanne qui est avec nous. Bonjour, Suzanne.
Bonjour.
On vous écoute.
Vous allez bien?
Oui, bien, très bien. Est-ce que vous avez l'hyper-performance? Connaissez-vous ça?
Pas du tout.
Non?
Mais en fait, pas du tout. Oui, je l'ai connu. Comme votre invité, j'ai fait une dépression majeure en 2005. J'ai fait un an sans travailler. J'ai même pas Internet sur mon téléphone. J'ai pas d'ordinateur chez nous. J'ai même pas la TV.
Là, vous avez complètement décroché après cet incident-là.
Complètement.
Ouais, c'est ça.
Bien, avec le temps, parce que je donne ce que je peux donner. Je performe dans la mesure où je peux performer, mais il n'est plus question que je me rende malade.
Mm-hmm.
Il n'est plus question.
Parce que vous avez été jusque-là.
Oui, oui. Mm. J'ai touché le fond. J'ai donné. Et je donne encore.
Ouais.
Je donne encore autant parce que c'est important pour moi de bien faire mon travail puis tout ça. Puis je livre la marchandise.
Ouais.
Mais il n'est plus question que je me rende malade.
Ouais. Merci beaucoup, Suzanne, de votre témoignage. Merci bien. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Tu sais, moi, je travaille 14 heures par jour. Je rentre à 9 heures, puis je pars à 11 heures du soir.
Wow.
Puis, tu sais, moi, mon gros problème, c'est la STM parce que je me promène en autobus puis tout. Puis, ça me prend 3 heures de mon temps. Fait qu'en plus de mon 14 heures, je dois faire un autre 3 heures, tu sais.
Tous les jours, 3 heures, Nicolas?
Oui, tous les jours, ben, à cause du trafic, la construction.
Oh, mon Dieu. Ouais.
Tout le temps en temps. Fait qu'aujourd'hui, il faisait beau. Fait que j'ai fait du vélo de Verdun. Et ça m'a pris 1 heure et demie.
Puis, ce matin, il faisait beau? Par chez nous, à Verdun, il mouillait, mais en tout cas... Vous avez peut-être un microclimat dans votre coin.
6 heures du matin, il mouillait pas.
Ah, c'est vrai, OK.
C'est ça, puis il faut prendre des raccourcis. Des fois, j'ai pris la 20, puis j'ai fait la 20 en vélo, là.
Ah, puis, ouais, OK. Ouais. Mais 14 heures par jour, c'est 5 jours semaine?
7 jours semaine.
7 jours?
94 heures par semaine.
Qu'est-ce que vous faites, Nicolas, comme travail?
Cuisinier.
Ouais, je m'en doutais que c'était dans la restauration.
Ouais. Mais c'est sûr que c'est dans la restauration.
Ouais, mais brûlez-vous pas, hein?
Ah, en plus, je suis étudiant.
Wow.
Ouais, je devenais docteur.
OK. Ben, lâchez pas.
Psychiatrie, peut-être.
Merci beaucoup, Nicolas. Éric, wow. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Éric. Avez-vous déjà... Êtes-vous un hyper-performant? Avez-vous...
J'ai pas le choix d'être hyper-performant. Parce ouais. que... Mon travail me demande de travailler pendant à peu près 8 mois et demi par année. Ça donne de très belles vacances.
Ouais.
Cet été, j'ai eu 2 mois. Dans le temps des fêtes, j'ai un mois et demi. Mais les 8 mois que je travaille, j'ai pas le choix de travailler comme un fou pendant partout à chaque semaine.
C'est quoi votre travail?
Moi, je suis travailleur à la pige en vidéo.
OK.
Je suis travailleur autonome à la maison. J'ai mon studio. Ma conjointe travaille avec moi.
OK.
Mais c'est ça. C'est 8 mois et demi-là... Quand on travaille, il faut absolument faire notre année parce qu'on ne sait pas comment ça va être l'année d'après. On ne sait pas comment ça va être dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas.
C'est ça, l'espèce d'épée de Damoclès que beaucoup de travailleurs ont sur les... C'est bizarre parce que on n'arrête pas de parler d'un problème de pénurie de main-d'œuvre. Hein. Je vous le rappelle qu'au Québec, on est quasiment en situation de plein emploi. On n'arrête pas de dire, d'ailleurs, il faut une immigration qui vienne nous sauver parce que économiquement, c'est une faiblesse de ne pas avoir assez de travailleurs pour remplir tous les postes qu'on a vacants. Puis en même temps, il y a tellement de travailleurs qui ont peur véritablement là, de perdre leur job. Il y a comme bizarre,
après
7
ans, j'ai plus peur. Non, après 7 ans, j'ai plus peur de manquer de travail. Je sais que je vais toujours en avoir, mais on s'est habitué à un train de vie. On veut pas descendre en bas de ça. Mm-hmm.
Mm-hmm. Fait que là, vous avez peur de perdre ce train de vie-là. C'est ça votre.
Oui, on gagne bien notre vie. Je gagne 2 fois et demi plus que je gagnais quand je travaillais à temps plein à Montréal.
Ouais.
Mais je veux pas baisser en bas de ça. Je veux pas avoir 20, 30 000 de moins l'année d'après.
Donc, Éric, la pression, c'est pas un patron qui vous la met à la rigueur, c'est vous qui vous la mettez.
C'est moi, oui, tout à fait, c'est moi.
Puis avec votre conjointe, vous la mettez mutuellement, c'est ça?
Non, ma conjointe ne me met aucune pression. C'est vraiment moi qui me la mets.
OK. Mais ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Éric, parce que on va parler à Sylvain dans 30 secondes. Je veux juste que Marie-Josée Michaud revienne là-dessus et Guillaume également, parce que là, on vient de toucher la peur. La peur de perdre. Ça, c'est pas un boss là, qui dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là, c'est nous-mêmes qui nous mettons cette pression-là parce qu'on a peur de perdre nos acquis, notre maison, notre chalet, notre voiture, ce qu'on a. On a peur de le perdre.
Merci, Éric. C'est Éric l'interrupteur.
Oui,
merci de l'avoir dit. Parce que trop souvent, on prend pas le temps de valider qu'est-ce qui nourrit ce besoin de performer ou de travailler à ce point.
Ouais.
On prend pas le temps de revenir sur la peur qu'il y a souvent derrière la raison pour laquelle on est même prêt à se faire du mal. Puis parfois, parlons d'éthique, on va même faire du mal à nos collègues. Un patron qui demande ou un employé qui demande sans arrêt, tout en sachant que ça risque de perturber l'équilibre de l'équipe.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on va le faire pareil? Pourquoi? Posez-vous la question. T'sais, soyez honnête envers vous-même, surtout si vous êtes un leader ou vous êtes propriétaire d'une PME. Quand vous demandez constamment de l'overtime à vos gens, c'est quoi la vraie raison qu'il y a en arrière de ça? Puis quand vous l'aurez trouvé la réponse, là, prenez donc le temps de le partager ça avec vos collègues ou avec votre équipe. Parce que même si c'est pour ma carrière que je le fais, ben si tu as le goût de le partager avec ton équipe, là, ben fais-le. Mm. Mais essaye d'abord de faire ce qu'il faut pour être en mesure de ne pas faire du mal parce que toi, tu as un agenda politique ou de carriériste pour toi.
Ouais.
Mais après ça, si c'est vraiment pour aider les employés puis être en mesure de faire avancer l'équipe dans la bonne direction pour que tout le monde en sorte gagnant et en santé, parlez-en à vos employés, vous avez peur. Parce que souvent, ils vont trouver des solutions extraordinaires dans lesquelles tout le monde va pouvoir y gagner, dans lesquelles on va savoir se préserver mutuellement parce qu'on va savoir où on s'en va puis quels risquent d'être les coûts à travers ça. Mais il faut se poser la question. Il faut être honnête.
Mais en même temps, je reviens à la peur personnelle qu'on nourrit et qui fait qu'on peut souffrir d'hyperperformance. Puis quand je dis souffrir, ça peut être bien, on l'a dit au début, là, ça peut être bien l'hyperperformance si tu gères ça. Mm-hmm. À ce moment-là, ça devient de la performance. Il n'y a pas la notion d'hyper. Tu travailles trop, mais tu t'en rends pas compte parce que tu aimes ça. Il faut faire attention aussi, là, parce que des fois, on peut frapper un mur. Mais il y en a qui le contrôlent très bien. Il y en a qui m'écrivent, qui me disent, moi, j'en ai pas de problème. Je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler. Ben, c'est magnifique, c'est
ça,
super.
C'est, ouais. Mais, hein? C'est probablement parce qu'il est dans son désir à être. Il est en train de faire qu'est-ce qu'il aime dans la vie.
Ouais, c'est pas si mal non plus. Non. On s'arrête ici, très courte pause. On a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. C'est fascinant. On va revenir avec vos commentaires, bien sûr. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On va parler à Sylvain et on va revenir avec également la réaction de Guillaume Desnoyers à cette peur qu'on se met, là, cette peur qu'on a, qui nous met dans une hyper-performance qui peut finir par devenir toxique. À tout de suite, tout le monde. On se pose la question ce matin, est-ce qu'on se met trop de pression sur les épaules pour performer au travail? Ce qui nous a donné envie de parler de ça, c'est le livre de mon invité, Marie-Josée Michaud, qui a été une cadre supérieure, qui a beaucoup donné pour son travail, puis finalement, à un moment donné, ben, on frappe un mur. L'hyperperformance est devenue toxique. Elle vient de publier 80 heures par semaine où elle raconte son expérience et qui a fait en sorte qu'elle n'a pas eu le choix, hein? Marie-Josée, vous le racontiez au début, de se repositionner. Aujourd'hui, deuxième carrière, elle devient finalement un peu un guide, une guide pour tous ces gens aussi qui veulent tout de même profiter du travail parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille, mais en même temps, on ne veut pas que le travail nous bouffe. Sylvain, bonjour. Est-ce que vous avez trouvé un équilibre, vous, au travail ou vous vous mettez encore beaucoup de pression?
Bonjour, bonjour. Ben moi, je pense que j'ai envie de dire, je vais être positif en disant que je suis en train de devenir comme une bonne bouteille de vin en gel. Avec le temps, on s'améliore.
Ouais.
Donc, j'ai été 20 ans à mon compte là, à performer pour moi. Oui, j'étais heureux, mais en même temps, je trouve que de nos jours, on est beaucoup dans le regard des autres, puis l'approbation de « Ah oui, t'es bon, t'es ici, t'es ça. »
Ouais.
Puis c'était dur. J'avais une belle grosse maison à Mont-Tremblant, puis deux voitures, puis de la visite tous les week-ends, puis du ménage qui vient avec ça. Puis de nos jours, ben je suis retourné à l'école l'an passé. Un petit cours. Puis maintenant, je travaille pour une grosse boîte. Puis c'est eux autres qui se cassent la tête, pas moi.
Ouais.
Puis.
Vous êtes retourné à l'école en quoi?
Ah, j'ai suivi un cours en ébénisterie. Et j'aime le bois. J'ai toujours aimé le bois. Puis je voulais vivre une autre passion parce que la vie est courte. Puis les passions, ben, il y en a qui en ont beaucoup, là. Donc, je veux pas le dire, là, mais je suis retourné. Je travaille chez Bombardier et je suis heureux comme un ange. Parce que je me casse pas la tête. Puis le petit parallèle que je voulais faire, c'est qu'avant, j'avais une maison, comme je l'ai dit, là.
Ouais.
La grosse, c'est un gros chalet là au Mont-Tremblant. Il y a plus tout ça, il c'est plus là là pour toutes les histoires de la vie. Mais maintenant, j'ai depuis 4 ans, j'ai un petit chalet dans Lanaudière de 15 000 $. Puis le bonheur là, ça m'arrive le matin de prendre mon bol de café devant un tout petit lac. Puis le bonheur là, il est égal à la maison de 450 000 au Mont-Tremblant. Puis il y a pas d'hypothèque. Puis ça là, maudit que c'est. Il faut le travailler, il faut le réfléchir, puisque les autres en disent, c'est pas les autres qui sont responsables ou qui contrôlent notre bonheur. Notre bonheur, là, on l'a dans le ventre. Quelqu'un qui m'a déjà dit, ton petit feu sacré à l'intérieur de toi, là, il est toujours là. Avec une maladie, avec ci, avec ça, il faut, personne peut t'enlever ça. Le bonheur, il est dans nous. Le bonheur, il est pas dans Facebook. Le bonheur, il est pas dans l'ordi. Puis le bonheur, il est pas dans la grosse voiture de 90 000 $. C'est phénoménal, par en même temps, ce que je trouve triste dans tout ça, c'est que, ben oui, j'ai appris tout ça, mais j'ai 55 ans, tu sais.
Ouais. Hey, dites-moi, chez Bombardier, vous faites quoi?
Je suis ébéniste.
Ébéniste chez Bombardier.
Ah, c'est fantastique.
Bon, là, on va mettre ça au clair, oui. Mais c'est certain que je fais pas des meubles avec des queues d'aron et des tiroirs, mais on travaille sur le global. Bombardier, là, je vais pas faire une pub, là. Malheureusement, aux nouvelles, ce qu'on dit souvent, c'est ce qui va pas bien. Hein? Donc, les trains de ce temps-là, là, ils ont de la misère à tirer leur wagon, si on peut dire. Par contre, le global, le jet privé de Bombardier est l'avion le plus populaire, le plus prestigieux au monde, présentement.
Ouais. Oh non, mais Sylvain, savez-vous quoi? Bombardier, c'est un grand fleuron québécois, faut le dire.
Oui.
Non,
ah,
ce qui nous fâche, c'est à la rigueur les bonnies au patron, les conditions de certains contrats qui ont été négociés, quand même, faut le dire, là, sur le...
Mais il reste, vous avez raison.
Il y a déjà un bout de Bombardier qui nous appartient plus, malheureusement. C'est un peu dommage. On l'a quand même payé cher. cher.
Je vais pas parler de ça parce que vous allez me dire, je vais pour vous ramener dans mon
Oui, vous faites bien de me ramener. Hey, merci, voyons, Sylvain. Hey, Sylvain, vous êtes fort intéressant. Oui.
Mais c'est ça, bien glace. Mais finalement, là, dans les jets de Bombardier, il y a des jets privés qui sont finis comme des petits condos. À l'intérieur, pour les gens qui ont vraiment pas de problème dans la vie. Là.
Ça prend des ébénistes.
Donc, il y a des meubles là-dedans.
Ben
et puis, moi, je suis heureux. Puis, tous les jeudis, j'ai ma paye. Puis, c'est fini.
Ah, c'est formidable.
Je me casse pas la tête. Puis ça, c'est du bonheur.
Non, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sylvain? Vous pouvez répondre. Et moi, je gosse du bois chez Bombardier. C'est quand même assez formidable. Sylvain, écoutez, je vous trouve vraiment fabuleux, sincèrement. Si ça vous gêne pas, on prendrait vos coordonnées. On sait jamais. Je pense que vous avez plein d'affaires à dire. Puis, moi, je cherche tout le temps des gens qui sont positifs.
J'en ai plein à dire.
Alors, Normand Jeanne va prendre vos coordonnées téléphoniques. Je suis sûre qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, Sylvain. Guillaume, j'aimerais t'entendre là-dessus, ben, Guillaume Desnoyers.
En fait, hein, si on résume...
Hey, belle leçon de vie ici,
ben oui,
là.
Tout à fait.
Le bonheur, il n'est pas dans le gros chalet au Mont-Tremblant.
Il n'est pas dans l'avoir, hein, malgré ce que la société de consommation essaye de nous vendre, que on a besoin de ci, on a besoin de ça. On va bien se sentir si on va au centre d'achat. Le bonheur, il est dans être sur le bord de son lac tranquille, là, en train de prendre son café. C'est dans des petits moments comme ça. Puis tant mieux, je veux dire, s'il a trouvé son chemin là-dedans. Puis le vieil adage, hein, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait.
Ouais. Les nerfs, la vieillesse, il y a 50 ans.
Je sais, j'ai 51.
Ouais. mais tu sais, ça, tu vois, c'est une autre affaire aussi qui déprime les gens, qui les force à surperformer. Plus tu avances en âge, plus tu te fais dire que tu approches de la retraite, alors qu'ici, au Québec, je veux dire, il va falloir qu'on change notre mentalité. Je sais que je le dis souvent, là, c'est devenu une obsession. Mais après 40 ans, au Québec, t'es à moitié mort. T'es plus bon sur le marché du travail. Il va falloir qu'on change ça, cette vision-là, là.
Ben, je pense que c'est de moins en moins vrai, puis je veux dire, surtout avec... Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, ça amène un paquet d'organisations à penser différemment, parce que tu peux pas te priver des travailleurs de 50 ans et plus, ça représente un certain pourcentage de la force de travail, comme tu peux pas continuer comme ça en termes de santé psychologique au travail. Je veux dire, les organisations aujourd'hui réalisent, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, qu'il faut qu'ils prennent soin de leur monde s'ils veulent pas avoir un taux d'absentéisme si élevé que ça va les oublier.
Mais est-ce qu'elles l'ont vraiment compris, tu penses?
Ben, je pense que ça s'en vient beaucoup. Si on regarde les chiffres, on parle de plus de 80% des organisations qui disent l'absentéisme, c'est un grave problème.
Ouais.
Le présentéisme aussi. Je pense que c'est des mentalités qui sont en train de changer, mais ça va prendre des décennies encore. Sauf que la situation de pénurie, ça fait mal. Puis quand ça fait mal au portefeuille, ben ça amène les organisations à réfléchir autrement. Là.
Mm.
Parce que, veux, veux pas, aujourd'hui, on se dit où on va trouver plus de volume de travail. Ben c'est dans nos gens qui s'ils tombent moins comme des mouches, on va en avoir plus au boulot puis moins en arrêt de travail. Mm. Ben, y a une réflexion en ce sens-là qui se produit. Le courant du bien-être au travail, puis de surtout touche surtout les grandes entreprises où on a cette réflexion-là. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non, mais je pense qu'il y a des progrès quand même qui se réalisent.
Et c'est ce que vous faites maintenant, Marie-Josée Michaud.
C'est ce que je fais dans la vie, oui, c'est ce que j'allais dire. Au Québec, je travaille beaucoup dans le reste du Canada. L'année passée, le gouvernement fédéral, on a mis en œuvre un nouveau programme complètement pensé, élaboré avec moi et mes collègues pour aider justement les gestionnaires à être capables de parler de santé mentale avec leurs employés sans aller dans une clinique et en toute confidentialité. Parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer 300 gestionnaires à travers le Canada qui principalement, leur peur principale d'avoir de la difficulté à aller chercher de l'aide lorsqu'ils en avaient besoin, c'était d'être jugé comme étant incompétent. Fait qu'on est
beaucoup... Ou faible. Il n'est pas tough, il n'y a pas la coin dure.
Exactement. Fait que même d'en parler avec leurs employés, c'était difficile d'avouer comme gestionnaire, ils avaient de la difficulté à pouvoir aborder le sujet avec leurs employés. Fait que ça, c'est quelque chose que le gouvernement fédéral a mis en place, un programme M2M qu'on appelle ambassadeur. Donc, j'ai sélectionné, puis on parlait des gens de 50 ans et plus. Bien, les gens de qualité que j'ai vraiment trouvé parce qu'on a fait passer des tests au niveau de l'intelligence émotionnelle qu'on a élaboré, etc. Je les ai formés et c'était des gens avec une expérience incroyable qui avaient été touchés très souvent par une problématique, un challenge au niveau de la santé psychologique.
Et ils ont peut-être plus d'écoute?
Ben absolument, absolument. Puis il y avait même une personne qui était invitée à venir participer à la formation. J'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas prêts. T'sais, ça va être difficile pour vous, la formation, parce qu'on va aborder des sujets dans lesquels vous n'avez pas encore l'expérience. Ah, non, je vais être là. Puis au bout de deux jours, elle m'a dit, Marie, tu avais tellement raison. Elle a dit, là, je me rends compte d'un paquet d'affaires qu'il faut que je travaille. Mais c'est beau de voir que les choses avancent, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis quand on revient à l'hyper-performance...
Des décennies, il y a dit Guillaume, ça va prendre des décennies.
Mais oui, puis au Québec, à cause du problème de la productivité, actuellement, on est 15 ans en retard sur le reste du Canada. Canada par rapport à la santé psychologique au travail.
Ah oui, à ce point-là.
Ah, oui.
Ouais. Puis ça, c'est. Il y a une norme, hein? Le gouvernement canadien a fait une norme sur la santé et la sécurité psychologique au travail. Puis d'ailleurs, c'est pas compliqué, dans le fond, de se préoccuper de la santé psychologique puis intervenir là-dedans. Il faut faire trois choses. Il faut en parler.
Oui.
Sensibiliser les gens, former les gestionnaires. Oui. Mais offrir du soutien aux employés.
Ça, Guillaume, c'est simple, je pourrais te challenger un peu là-dessus.
OK, on va aller à la pause. Oh, regardez, où il est, le bonheur? Oh, on l'a quasiment trouvé un petit peu ce matin. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est dans ton café sur le bord d'un petit lac, là où on n'est pas ce matin, mais on a quand même du fun ensemble.
Dans un chalet, pas d'hypothèque.
C'est ça. On revient tout de suite après. Bonjour Jacques, on parle d'hyper-performance. Ça vient vous chercher ce matin, ce sujet-là?
Ben oui, j'ai hésité à appeler, mais j'ai dit qu'il faut que j'appelle parce que j'ai fait une grosse dépression majeure moi aussi en 2006. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que propriétaire, tu sais, ça demande encore des fois un peu plus parce que même si les médecins m'avaient dit d'arrêter, quand tu es propriétaire de deux usines avec 40 employés, tu peux pas nécessairement prendre du temps pour toi. Fait que il a fallu que je guérisse ça tranquillement.
Et dites-moi, si vous me permettez, Jacques, vous avez fait donc une dépression. Est-ce que c'est parce que l'entreprise allait pas bien?
Non, elle est très, très bien. Au contraire, d'ailleurs, justement, la croissance, la vitesse avec laquelle ça va, la préoccupation que mes employés soient bien, confortables et heureux. Et aussi, à travers ça, il y a le bénévolat, il y a l'implication sociale qui vient avec ça, parce que une entreprise qui va bien, ben les gens... Hein, puis,
si s'attendre à ce qu'elle redonne. Ouais.
Mm-hmm. Ouais, demande à quelqu'un, si tu veux que quelque chose se fasse, demande à quelqu'un d'occuper. Mm. Ça va se faire. Tu sais.
Ouais,
donc, j'avais aussi beaucoup d'implications sociales à travers moi. Ne pas savoir dire non aussi. Mm-hmm. Bref, il est arrivé d'autres choses dans ma vie, un coming out avec ça, mais ça, bref, je pense que c'est l'épuisement qui est arrivé à ça. Mais dans tout ça, un peu comme m'a invité, parce qu'il y a des... Il faut qu'il y ait des choses positives ou négatives qui nous arrivent. Là. Moi, j'ai compris, à travers le groupement des chefs d'entreprise du Québec, là, je ne sais pas si vous connaissez, mais qu'importe, les cinq équilibres de vie. Et ça, j'ai embarqué là-dedans. Aujourd'hui, je donne des petites conférences sur les cinq équilibres de vie et de comprendre, de se voir aller, qu'on est dans un déséquilibre dans les cinq sphères. Là. Faire une image, moi, je fais cinq ronds identiques, dont le travail, la santé, la famille, les sous, l'argent, hein, naturellement, on en parler, et le soi, son soi à soi, ce qu'on néglige souvent. Et lorsque ça arrive, lorsque l'événement comme ça arrive, ben là, on tombe dans la bulle du soi qui prend bien de la place, on oublie tout le reste. Alors, on est dans un déséquilibre de vie. Mmh. Et ça, moi, j'ai compris ça au fil du temps, et maintenant, j'ai vendu mon entreprise, c'est une offre qui m'était offerte par une superbe belle compagnie québécoise d'ailleurs, dont je ne pouvais refuser. Une question de timing qui était là. C'est pas parce que j'étais tanné de ça, j'ai juste 56, mais tu sais, l'opportunité était là. Et là, je prends un break, puis je m'aperçois que j'étais vraiment, vraiment brûlé. Là. Mais ce que je veux faire plus tard, c'est des sciences cognitives, enseigner les cinq grands rêves, les cinq équilibres de vie. Mais dans les petites PME, parce que les petites PME, les 15-20 employés, tout ça, ces gens-là, les chefs d'entreprise qui ont ça, ils n'ont pas les ressources financières ou ils n'ont pas la grosse structure pour être capable de gérer. Ils font la vaisselle, hein, c'est une image que je donne, là, mais ils font tout dans l'entreprise jusqu'à faire la vaisselle. Donc, ils n'ont pas le temps de se préoccuper d'eux et d'être en équilibre de vie. Et puis, un jour, ça vient à la trappe.
Ouais.
Et là, l'entreprise peut aller mal parce que le chef va mal. C'est ça que je veux dire. Si le chef va bien ou le gestionnaire, hein, peu importe. Là.
Mais si c'est difficile. Bien, c'est difficile, Jacques, avouer de bien aller quand t'es patron, quand t'es gestionnaire, quand que t'as des... Il faut quand même, puis c'est pour ça que c'est intéressant, la peur dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être dans le paraître, parce que il faut qu'on ait l'air, en guillemets, de bien aller pour l'idée. C'est ça l'image qu'on a. Merci beaucoup, Jacques. Vous êtes prêt à donner des conférences. Puis j'ai pris comme ça à la rapide votre numéro de téléphone parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec Marie-Josée. En tout cas, vous y penserez.
Mais, oui, on ne sait jamais. Pourquoi
parce
pas?
Que je pense que Jacques est dû pour donner des conférences. Il y a de la jasette.
Ben oui.
Mais c'est ça aussi. Puis il y avait tout raison. T'sais. Travail, santé, famille, argent, le soi, soi-même. C'est la première affaire qui saute, là.
Ben, c'est ça qui explose.
Guillaume.
C'est ça qui explose, qui fait péter tout le reste, surtout dans le contexte des entrepreneurs. Là. C'est typique.
Mais c'est difficile.
Ben oui, si c'était facile, personne n'aurait de problème avec ça.
Marie-Josée, c'est ça, vous aussi, là, qu'à un moment donné,
la notion de soi, prendre du temps pour soi. Moi, j'ai cette phrase où vous disiez, là, il y avait toujours quelqu'un qui voulait un petit bout de moi. Là,
c'est que je... Qui voulait quelque chose de moi. J'avais, mes enfants avaient peur de venir me réveiller la nuit parce que je faisais tellement le saut. Là, parce que j'étais en hyper-vigilance, qu'on appelle. Donc, j'étais sous l'adrénaline constamment. Donc, oui, parce que j'avais cette impression qu'on comptait pour moi, pour tout, pour toutes les crises professionnelles, les personnelles que j'avais à gérer. Est-ce que c'était une réalité? Ben, c'est ça.
C'est ça. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai? Vous étiez la sauveuse de tout le monde?
Ben, apparemment que pour certaines choses, oui. Mais on se valorise de ça. Fait que, parce qu'on a une compétence.
Tu sais, quand t'es à terre, les autres se sauvent tout seuls.
Ben, finalement, tu te rends compte que le cimetière est plein de gens indispensables. N'est-ce pas? Fait qu'à un moment donné, j'ai compris ça. Mon psychiatre, à un moment donné, il m'a dit, Mère Josée, la journée que tu vas décider que c'est correct d'être incompétente dans quelque chose, tu vas devenir heureuse. Fait que, sur le coup, j'ai dit, ça arrivera jamais. Fait que là, vous pouvez rire, parce qu'on le sait, il faut jamais dire jamais. Mais c'est quelque chose qu'on a cette croyance qu'il faut absolument qu'on est indispensable, qu'il y a juste nous qui peut faire ça, puis on va se valoriser beaucoup là-dedans.
C'est très grisant.
Puis quand je coach des gestionnaires, c'est ça que je leur dis. Toi, là, tu te valorises à être le seul qui peut faire la job. Mais là, t'empêches ton équipe de grandir dans ce temps-là. T'sais, puis tu penses que tu performes, mais tu performeras pas tout le temps comme ça, puis tu pourras pas y arriver tout seul.
Êtes-vous heureuse aujourd'hui?
Absolument.
Est-ce mais moins riche, par exemple.
Moins riche, moins... j'ai appris à improviser l'incertitude, finalement, parce que je trouve que c'est un choix, c'est un coût pour moi, l'incertitude, qui vaut la peine, parce que ça m'amène plein d'opportunités, plein de richesses. C'est comme s'il y avait « the sky's the limit » après ça. Là.
Ouais. Guillaume, voilà. Desnoyers?
Ben, je disais, c'est grisant d'être un pompier, de régler des choses pour les autres. C'est très valorisant. Par contre, c'est aussi un grand signe d'incompétence pour un gestionnaire, parce que si on fait tout, puis on décide tout, on est très incompétent dans une chose, c'est développer les membres de son équipe autour de soi, ce qui est un mandat d'un gestionnaire, mais on le réalise pas parce qu'on se valorise beaucoup là-dedans en tant que gestionnaire, là, d'être le go-to person que va voir Marie-Josée, elle va régler tes problèmes. C'est un peu ça. Puis à un moment donné, ben, il arrive ce qui arrive.
De quoi, si on essayait, là, si on, j'aime bien finir avec quelques petites solutions, des trucs et tout. Si, y a des gens qui nous écoutent puis qui, sans doute, après une heure de discussion, se disent est-ce que c'est moi, ça, ce qu'on vient de décrire? Quels sont les signes avant-coureurs, vous diriez, Marie-Josée? Il nous reste une minute. Qui devraient alarmer les auditeurs, auditrices?
Si on revient à la notion de la peur, moi, j'ai découvert que notre corps est sagesse.
Vous aviez une boule.
Oui, j'avais une boule au plexus qui était là constamment. Puis avec les recherches, le travail que j'ai fait, j'ai découvert d'où ça venait. Puis c'est vraiment le signe physique de la peur. Alors, si on était capable d'identifier les quatre signes physiques prédominants des quatre émotions, qui est la peur, la tristesse, la joie et la colère, si on est capable d'identifier ces signes-là, ça nous donne l'opportunité de mettre en lumière les pensées qui enlèvent notre énergie vitale pour pouvoir continuer à performer.
Merci pour cette belle heure de discussion à tous les deux. Guillaume Desnoyers, recruteur professionnel chez Desnoyers Ressources et Conseils, spécialiste en ressources humaines agréées. Marie-Josée Michaud, je rappelle le titre de votre livre, 80 heures par semaine, quand l'hyper performance devient toxique, publié aux éditions La Semaine. Merci à tous les deux. Tout le monde, on se retrouve de l'autre côté des nouvelles et on poursuit notre discussion. Restez là, tout le monde.